Bonsoir, frères et sœurs. C'est vraiment des beaux chants qui, des beaux chants, mais des chants aussi qui sont remplis d'une certaine tristesse de penser que Jésus a été autant maltraité, mais c'est pour nous, c'est par amour pour nous. Le passage qu'on va regarder ce soir fait suite à notre étude dans Jean. On est rendu dans Jean 19, donc la deuxième partie du chapitre 19 de Jean. On va commencer ce soir au verset 17, mais avant de se plonger dans le texte, c'est bon de se rappeler un peu ce qu'on a vu dans les dernières semaines, toutes les choses qui nous ont menés à ce moment où Jésus-Christ crucifié. On a vu Jésus qui a pris soin de ses disciples, qui a passé du temps avec eux d'une manière très intime, qui les a encouragés aussi, qui les a avertis de ce qui allait venir, puis s'ils pouvaient le faire, s'ils pouvaient leur dire qu'il allait leur envoyer l'Esprit, qu'il allait leur préparer une place, qu'il allait être trahi, c'est parce qu'il était pleinement en contrôle de tout ce qui se passait. Jean nous présente un roi vraiment serviteur qui prend soin de ses disciples dans sa dernière semaine de vie, mais aussi qui sait exactement vers quoi il se dirige. Puis c'est d'autant plus frappant dans le passage qu'on va lire ce soir. On voit un Dieu qui est souverain, même dans la souffrance la plus grande, même dans un événement tragique. Dieu manifeste que c'est exactement son plan glorieux pour nous. On va étudier le passage en trois parties. En premier lieu, on va regarder les versets 17 à 22, où on voit vraiment la souveraineté de Dieu dans le rejet même du Messie. Par la suite, on va regarder comment est-ce que la souveraineté de Dieu est manifestée même par les souffrances du Christ, comment les Écritures s'accomplissent, et finalement, on va regarder comment est-ce que la souveraineté de Dieu qui est manifestée à la croix transforme des vies. Donc, pour commencer, on va lire du verset 17 au verset 22 du chapitre 19 de Jean. Je vais lire. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Peut-être que vous vous rappelez dans environ une semaine plus tôt, Jean nous décrit que Jésus rentre de manière triomphale à Jérusalem sur le dos d'un âne et les foules accueillent vraiment Jésus comme un roi. Ils disent Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et une semaine plus tard, Jésus porte sa croix et sort de la ville complètement rejeté par son peuple. Quel contraste! De rentrer à sortir, d'accueillir par les siens, à rejeter complètement. Même Jean 1,11 nous le dit. Jean nous dit que la parole a été faite chair, mais que les siens ne l'ont point reçue. Puis on en voit la manifestation peut-être la plus triste ici. On voit ici que Jésus porte sa croix. Bon, il y a d'autres évangiles qui nous amènent un peu plus de détails sur ce qui se passe à ce moment-ci. On peut lire ailleurs que Simon de Cyrène va transporter la croix de Christ. Il n'y a pas une contradiction ici, mais plutôt nous aide à comprendre encore plus la souffrance et l'angoisse de Christ qui probablement n'avait même plus la force de porter la croix, c'est-à-dire la barre transversale de la croix qu'il portait sur ses épaules, probablement à bout de force, déjà flagellé. Et puis, c'est là qu'un homme est interpellé pour prendre la relève. Donc, Jésus sort en portant sa croix, mais déjà dans tout le mal qu'on y avait fait, a eu peine à la porter jusqu'au lieu où il allait être crucifié. C'est vraiment une occasion frappante de méditer même les paroles de Jésus dans Matthieu 10, 38, où il dit « Celui qui ne vient pas à ma suite en prenant sa croix, pas digne d'être mon disciple. » Wow! Prendre la croix de Jésus, c'est quelque chose de radical. C'est quelque chose de demandant, puis Christ lui-même l'a fait en obéissance au Père. C'est bon de se rappeler que la vie chrétienne est modelée d'après l'exemple de Christ, et que des fois, c'est très difficile. Le verset 18 nous dit « C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui, deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. » Tantôt, on a lu Ésaïe 53, Ronald nous en a fait la lecture pendant le temps d'adoration par la louange, puis en fait, ce passage, c'est exactement un accomplissement de ce qui est décrit plusieurs centaines d'années d'avant par le prophète. On peut lire dans Ésaïe 53 que le serviteur souffrant qui était annoncé allait être compté parmi les coupables. C'est pas la place de Christ, c'est pas la place du roi de l'univers d'être entre deux brigands comme ça sur la croix. C'est vraiment une humiliation frappante. Si on continue dans le passage, on lit « Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Même à travers les souffrances de Christ, même à travers un événement si tragique, c'est un autre exemple de la souveraineté de Dieu qui est manifestée par l'écriteau qui est au-dessus de la tête de Jésus sur la croix. Les principaux sacrificateurs n'aiment pas ça. N'aiment pas le fait que ça soit écrit « roi des Juifs » parce que c'est comme une affirmation. C'est comme si ça, à leurs yeux, ça donnait raison à Jésus qui se disait le roi des Juifs. Puis les principaux sacrificateurs disent à Pilate, pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est pas vrai. Il a juste dit ça. Mais nous, on le rejette. Puis Pilate, probablement par moquerie pour les Juifs, par méchanceté, par peut-être exaspération face à toutes leurs demandes, décide non. Il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça va rester là. Mais même à travers la méchanceté de Pilate, ou qui veut se moquer des Juifs, qu'est-ce qui ressort de cet écriteau-là? Ben, c'est la vérité. La pure vérité. Jésus lui-même est la vérité. Puis le titre qu'il porte sur la croix, même jusqu'à l'agonie, reflète réellement le Dieu qu'il est. L'écriteau est... On lit qu'il est en hébreu, en latin et en grec. Mais ce que ça veut dire, c'est que les langues qui étaient inscrites faisaient en sorte que quiconque passait, dans le fond, pouvait lire. Le grec était la langue répandue à l'époque. L'hébreu était la langue des Juifs. Le latin, c'était plus la langue, si on veut, militaire ou officielle de l'Empire romain. Donc, quiconque s'approchait de la croix, il voyait une claire affirmation de qui Christ était. Puis même si sur la croix c'est écrit Jésus le roi des Juifs, mais on sait que Jésus était le roi non seulement des Juifs, mais de quiconque s'approchait de la croix pour y lire, que ça soit un Juif ou que ça soit un Romain ou d'une quelconque ethnie, Jésus est mort et s'est fait un peuple avec des enfants de toutes nations. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, on lit au verset 23, « prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. » On rentre dans une prochaine partie du texte où Jean va vraiment nous révéler plusieurs accomplissements de prophéties de l'Ancien Testament. Puis, en fait, à premier regard, on pourrait se demander pourquoi est-ce que des choses aussi anodines nous sont relatés. Pourquoi parler de Romains qui se partagent des vêtements et autre chose qu'on va lire plus tard? Mais on va comprendre comment est-ce que la souveraineté de Dieu est manifestée en ce sens. On va commencer à lire les versets 23 et 24. On va commencer la série d'affirmations où Jean nous montre vraiment la souveraineté de Dieu à travers toutes les souffrances de Christ sur la croix. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. » C'était afin que s'accomplisse l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Donc, à cette époque-là, c'était la coutume que les bourreaux puissent prendre pour eux-mêmes les biens qui étaient laissés par la personne qui était exécutée. Donc, les soldats, on lit, se séparent ses vêtements, probablement ici, se séparent ses sandales, sa ceinture, peut-être son voile sur la tête, et viennent à sa pièce de vêtements complète, qui est une tunique sans couture. Donc, au lieu de partir chez eux avec le souvenir, un corps de tunique, décide de la tirer au sort, probablement de manière pragmatique, pour qu'au moins quelqu'un puisse la porter par la suite. Mais en cet exemple très anodin de ce qui se passait à l'époque pour les Romains qui crucifiaient, ben on voit l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. On peut lire, c'est dans le psaume 22, au verset 19, même le psalmiste qui, dans ce psaume, vraiment se décrit comme étant rejeté par les siens, puis qui implore le secours de Dieu. Il écrit, au verset 19, « Il se partage mes vêtements, et il tire au sort ma tunique. » C'est vraiment frappant. Ça a été écrit un millier d'années environ avant ces événements-là, mais ça porte tellement de sens lorsqu'on lit le récit de la crucifixion. C'est d'ailleurs dans ce même psaume-là, au psaume 22, qu'est écrit une des paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Et on se rappelle, il s'est écrié, c'est relaté dans d'autres évangiles, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est justement l'introduction de ce psaume si prophétique de l'Ancien Testament. C'est frappant parce que il n'y a rien qui surprend Dieu dans son parcours jusqu'à la mort. Jésus, même lorsqu'il marchait avec ses disciples, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il multipliait les pains et les poissons, savait que ultimement sa destination, c'était la croix. Il savait exactement les souffrances à travers lesquelles il allait passer, et savait qu'il allait pouvoir s'identifier de manière si près avec les paroles de souffrance de ce psaume-là. On peut continuer la lecture, et on va lire les versets 25 à 27. « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ici, on peut comprendre que le disciple en question, c'est Jean, celui qui écrit ce passage, qui parle de lui-même. Et on voit un contraste vraiment frappant, premièrement, parce que tu as les bourreaux qui sont au pied du Sauveur du monde crucifié, qui se soucient de simples possessions matérielles, de vêtements, de tirer au sort une tunique, mais on a des femmes, on a gens qui sont auprès de la croix, qui sont auprès de leur maître avec respect, dans la douleur, et probablement aussi avec beaucoup d'incompréhension, parce que les évangiles nous disent que les disciples n'avaient pas pleinement compris qu'est-ce qui allait se passer à la croix. C'est C'est touchant aussi de voir que là où Jésus est dans la plus grande souffrance, il est tourné vers ses brebis, il est tourné vers les gens dont il prend soin. On a un Dieu qui, jusqu'à la fin de sa vie, et même par sa mort et par sa résurrection, prend soin des siens de manière frappante. Puis ici, ça se manifeste à l'égard de sa mère. Ici, quand Jésus s'adresse à sa mère et lui dit « Femme, voici ton fils », femme, c'est pas un terme froid ou c'est pas un terme péjoratif du tout. C'est une manière tout à fait correcte et polie de s'adresser à elle. Puis ici, Jean comprend par cette parole de Jésus que c'est comme si Jésus lui lègue la responsabilité de prendre soin de sa mère. Et en faisant ça, Jésus accomplit même la loi jusqu'au bout. La loi qui demande d'honorer son père et sa mère. Puis Jésus, même jusqu'à la croix, reste dans l'obéissance de Dieu et dans la soumission à la loi de Moïse. C'est frappant de le voir comme ça. On pourrait se demander, c'était une de mes réflexions en lisant le texte, pourquoi est-ce que c'est pas un frère ou un des frères de Jésus qui a pris soin de Marie. On sait que Jésus a eu des frères. Pourquoi est-ce que ces gens qui se voient donner la responsabilité de la prendre avec lui comme ça? Il y a différentes choses qu'on peut imaginer. Premièrement, on a dans le témoignage justement du livre de Jean que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus étaient pas sympathiques à sa cause. Est-ce qu'ils étaient à la croix? Peut-être même probablement pas. On sait même qu'ils habitaient dans une région du pays complètement différente. Donc, peut-être que même cet aspect pragmatique-là de la distance jouait, puis peut-être l'indifférence même des frères de Jésus pour lui, mais on voit aussi que Jean et Marie ont un amour réel pour Christ et que c'est Jean étant un disciple digne de confiance, puis lui et Marie ayant une foi commune, c'est quand même logique que Christ lui ait légué le soin de sa mère. Et donc, dès cette heure-là, on lit Jean prend Marie chez lui, s'occupe d'elle selon ce que son Sauveur lui a demandé. Lisons maintenant les versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, il baissa la tête et rendit l'esprit. Par cette parole-là, j'ai soif, c'est comme si ça démontre qu'il est pleinement conscient, pleinement dans l'agonie. Jésus est vraiment pleinement Dieu, mais pleinement homme, et était dans la souffrance. Ici, le j'ai soif, là, c'est pas une petite affirmation genre « Hey, je prendrais bien un verre d'eau, là. » La soif était un élément central de la souffrance qu'éprouvait un crucifié. Il est laissé là au soleil. Les fluides qui ont sorti de son corps à travers toute la flagellation, son sang qui coule à bout de force, la soif qu'il ressent, peut-être même la fièvre souvent qui venait s'ajouter au malheur d'un crucifié. Jésus est réellement dans une grande souffrance. Et proche de lui se tient un vase de vinaigre. Et puis c'est de ça qu'on nourrit. Quelle cruauté. Ce qui est frappant, c'est que le vinaigre est fixé à une tige d'hysope, donc probablement la partie la plus solide de l'hysope, et lui est donnée. Et c'est à partir de ça qu'il boit, mais l'hysope revêt une signification particulière ici parce que c'était avec ce petit arbuste-là, cette plante-là, qui était répandue le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte Si on lit dans l'Exode, c'est même clairement dit dans l'Ancien Testament, quelle image, hein? Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même dans ces plus petits détails-là, Dieu est souverain à manifester toute le symbolisme et la gloire de ce sacrifice-là de Jésus. Le vinaigre en lui-même est l'accomplissement d'une prophétie qu'on peut lire dans le psaume 69, au verset 22. C'est écrit, « Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Donc même dans l'Ancien Testament, dans ce psaume écrit encore une fois, des centaines d'années avant Christ, des échos de ce qu'il allait subir étaient clairement inscrits. C'est frappant parce que ce psaume-là, justement, traite du rejet de David par le peuple, de la méchanceté de ses ennemis. Encore là, les parallèles sont vraiment frappants. Et une fois que Jésus a pris ce vinaigre, il affirme, tout est accompli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout est accompli? Ben, c'est une phrase extrêmement chargée de sens. C'est comme si Jésus affirme en disant ça que son œuvre rédemptrice, telle qu'elle avait été annoncée par les prophètes, était vraiment bel et bien accomplie. Certains même voient dans la signification de cette phrase-là, dans la langue originale, l'idée vraiment d'une phrase comme d'un rituel religieux, vraiment l'idée que c'est officiellement, c'est un rite qui est officiellement accompli. Jésus, on a toutes les autres paroles qu'il a dites sur la croix dans les autres évangiles, on a toutes les souffrances qui lui ont été subies, mais vraiment là, il est arrivé au bout de tout ce qu'il avait à faire, et puis il baisse la tête et rend l'esprit. Tout ce que le Messie devait accomplir selon les Écritures a été pleinement réalisé, et a été réalisé d'une manière que les Juifs qui attendaient un Messie n'auraient jamais pu l'imaginer, sauf par la foi. Ça a été accompli par la plus grande humiliation, par la plus grande souffrance, et non pas par un triomphe militaire ou une manifestation humaine, si on veut, de gloire. C'est frappant, même l'utilisation de la formulation de rendre l'esprit. C'est comme un rappel de la souveraineté de Dieu sur la situation. Dans un autre évangile, dans Luc, on lit que Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis même dans Jean, au chapitre 10, Jean nous relate les paroles de Jésus qui a dit qu'il n'y a personne qui prend sa vie, c'est lui qui décide de la donner. Jusqu'au bout, Jésus décide de lui-même de se sacrifier pour nous et va jusqu'au bout. C'est frappant, c'est comme pour nous-mêmes, c'est en anglais on dit humbling, là, ça remet à notre place de dire que l'être le plus grand, le plus puissant de l'univers, pour que nous, des pécheurs, des ennemis de Dieu, soyons sauvés, a dû s'abaisser de la manière la plus humiliante pour qu'on puisse avoir accès à lui. On était éloignés de Dieu à ce point-là, de ce que le plus grand Dieu, le seul vrai Dieu de l'univers, doivent s'abaisser de la pire manière connu aux hommes presque, avec la crucifixion. Donc c'était le verset 31, on va continuer la lecture, nous dit, c'était le jour de la préparation, donc le jour avant le sabbat, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Donc, selon la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les corps qui étaient pendus au bois devaient être descendus avant la fin de la journée. Puis en fait, c'est écrit dans Deutéronome 21, au verset 22 et 23, que c'était pour ne pas souiller le pays, parce que celui qui est pendu au bois est maudit. Jésus a été maudit pour nous. Et vu qu'on était justement à Jérusalem, la ville sainte, territoire des Juifs, alors les Juifs demandent à Pilate, s'il vous plaît, on finit ça ici, on a un sabbat, on ne veut pas souiller la terre. C'est un peu ça le message ici. La crucifixion peut, pour plusieurs victimes, prendre des jours et des jours. Ce n'est pas une question de quelques heures sur la croix. Pour plusieurs, ça va être une journée, deux journées. C'est une agonie constante où, avec les dernières forces qu'on a, on cherche à chaque souffle à se relever pour avoir l'espace pour recevoir de l'air dans nos poumons. C'est un supplice qui s'étire, mais on voit Jésus, lui qui a déjà rendu l'esprit, qui est mort. Donc, pour les deux autres condamnés, on leur brise les jambes, de sorte qu'ils ne puissent pas utiliser les jambes pour se relever, parce que c'est seulement en étant relevé que l'air pouvait rentrer dans les poumons. Mais là, avec les jambes cassées, les crucifiés n'avaient plus assez de force avec leurs bras pour se relever et pour respirer, donc mourait d'asphyxie. Extrêmement cruel. Des fois, il mourait aussi de perte de sang, parce que les jambes cassées, ça fait des gros dommages au corps humain. Mais ils viennent à Jésus, après avoir cassé les jambes des deux qui sont à côté de lui, il est déjà mort. Et on voit qu'un des soldats lui perce le côté avec une lance, et il sort de l'eau et du sang. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur la signification de ce que ça voulait dire. Ah, est-ce qu'il y a un symbolisme dans l'eau, dans le sang? Mais ici, c'est probablement juste de manière empirique, Jean qui décrit que Jésus est bel et bien mort. Si le garde a planté sa lance en lui, l'a sorti, il a été satisfait de voir ces fluides-là qui sont sortis, ça veut dire qu'il était bel et bien décédé. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails médicaux, mais la présence de l'eau, c'est comme le corps qui rejette, tranquillement commence à se vider de ses fluides. Donc, dépendamment de la manière dont le perce, il peut avoir de ce liquide-là qui sort au moment de la mort. Donc, Jésus est déjà mort et il est percé. On lit au verset 35 jusqu'à 37. « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. Cela est arrivé pour que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. » Je vais commencer par la deuxième partie de ces versets-là où on voit vraiment l'Écriture qui est accomplie. Lorsqu'il s'est écrit « Aucun de ses os ne sera brisé », en fait, c'est l'accomplissement d'une instruction vraiment frappante qui est laissée au peuple. On le voit entre autres dans Nombre 9, verset 12. À quoi ça a trait? Ça a trait à l'agneau pascal. Il est écrit au sujet de l'agneau, l'animal, vraiment, au sens pur du terme utilisé pour la Pâque dans l'Ancien Testament. « On n'en laissera rien jusqu'au matin et l'on n'en brisera aucun os. » Et Jésus lui-même, l'agneau pascal, a été vraiment comme cet agneau offert en sacrifice. Aucun de ses os n'a été brisé. Et puis le verset 37 qui dit « Ils regarderont à celui qu'ils ont percé », ben en fait, c'est l'accomplissement d'une parole du prophète Zacharie qui dit, on lit dans Zacharie 12, 10, où il parle aux habitants de Jérusalem puis il leur dit qu'ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Wow! Quel témoignage clair, hein? les habitants de Jérusalem allaient voir, comme Jésus était livré en spectacle, allaient voir celui qui allait être percé. C'est frappant parce que, justement, au début de son évangile, Jean nous relate les paroles de Jean-Baptiste qui dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Combien clair à nos yeux est-ce que Jésus est cet agneau tel qu'annoncé? Je vais revenir maintenant au verset 35 qui, à première vue, peut sembler un peu compliqué, même à deuxième puis à troisième vue parce qu'il y a beaucoup de pronoms, il y a beaucoup de prépositions. C'est écrit « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. » Donc, celui qui l'a vu ici, il s'agirait de l'apôtre Jean lui-même. Donc, Jean l'a vu, a vu Jésus, a vu ce qui vient de se passer, et en a rendu témoignage. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. C'est comme s'il dit, j'en ai rendu témoignage, et mon propre témoignage est vrai. Jean continue, il dit, et moi, je sais que je dis vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Puis ça peut sembler un peu bizarre, même un genre de raisonnement circulaire. Pourquoi est-ce que Jean dit, croyez à ce que je dis parce que je l'ai dit puis c'est vrai? On dirait qu'il y a comme pas de substance dans ce passage-là à première vue, mais si on regarde de manière plus large tout le chapitre, même ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit un témoignage autre que celui de Jean. On voit le témoignage des Écritures. Combien de passages sont cités? On a des accomplissements prophétiques de passages qui ne sont pas explicitement cités, mais on a au verset 24 un passage qui est cité, au verset 28 et au verset 36, deux différents passages. Donc, Jean ne s'appuie pas sur la fumée, sur le vide pour dire « c'est vrai parce que c'est vrai, croyez-moi, je vous le dis ». Il dit « moi, j'ai vu que ce qui s'est passé à Jésus, c'est réellement l'accomplissement des Écritures ». Je vous le dis, c'est vrai. Donc, il parle pas juste de lui-même, mais s'appuie sur ce qui a été annoncé d'avance, sur la parole de Dieu, comme elle étant une source de révélation de la souveraineté de Dieu, vraiment, qui, depuis des centaines d'années, annonçait exactement qu'est-ce qui allait se passer. Donc, beaucoup de passages, beaucoup de vérités qui sont annoncées d'avance et qui se manifestent en Jésus-Christ sur la croix. Maintenant, on va lire la dernière partie du passage. On voit vraiment la souveraineté de Christ qui transforme des vies. Je vais le lire d'un coup de 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. La dernière partie du chapitre nous présente deux nouveaux personnages, un moins nouveau que l'autre. On a premièrement Joseph d'Arimathée. C'est écrit que c'est un disciple de Jésus, mais en secret par la crainte des Juifs. Donc, il semblait croire réellement en Jésus, mais se cachait, ou cachait réellement son allégeance à Christ. L'évangéliste Luc nous apprend que c'est un homme parmi les principaux sacrificateurs, membre du Sanhédrin, du grand conseil du peuple juif, et que c'est un homme pieux, qui est bon, juste, et aussi c'est un homme riche. Pourquoi je dis ça? ça va avoir une certaine incidence un peu plus tard. Donc, avant de voir Jésus sur la croix, il est un homme qui dit croire en Jésus, mais qui le fait en secret. Un homme qui craint les hommes, un homme qui a peut-être honte de sa foi, peut-être qui vit aussi un peu de doute par rapport à Jésus. Mais la crucifixion change radicalement sa vie. Alors que les principaux sacrificateurs du peuple se sont débarrassés de Jésus aux mains de Pilate pour qu'il le crucifie. Joseph, lui, a vu ce qui s'est passé, frappé, fait le contraire des siens et va voir Pilate et lui demande d'avoir Jésus. Quel contraste frappant! C'est quand même pas une entreprise des plus faciles dans la mesure où, justement, non seulement tu attires le regard des Juifs, mais aussi tu vas voir l'homme qui a crucifié celui en qui t'a mis ta confiance, puis tu lui demandes, c'est comme une certaine forme de révérence pour celui que Pilate a crucifié sur la croix. Mais il le fait. Visiblement, la croix de Christ et la manière dont Jésus a accompli les Écritures, certainement Joseph les connaissait très bien, ça vient le frapper et ça le change radicalement. Après, on voit Nicodème qu'on avait vu dans Jean 3. Comment il était venu à Jésus? Il était venu de nuit, hein? En secret, sans que les siens, les autres membres des principaux sacrificateurs le remarquent, est allé voir Jésus. Et c'est un échange frappant, justement. On a parlé de Jean 3,16, tantôt, cette belle parole de vérité que Jésus a dit à Nicodème, justement, à ce moment-là. Et là, on voit Nicodème, qui alors, auparavant qu'il était allé de nuit vers Jésus, maintenant, 3 heures de l'après-midi, pleine journée, vient devant son roi, puis lui offre non seulement une certaine forme d'allégeance en s'identifiant à lui devant tous, mais lui donne, on lit, 100 livres de myrrhe et d'aloès. Donc, des aromates d'une grande valeur qu'il utilise, qu'il amène pour sa sépulture. Non seulement ces deux grands actes de ces hommes-là, non pas que ça fait deux des grands hommes, mais en plus, la loi était claire sur le fait d'entrer en contact avec un corps mort. Si un Israélite rentrait en contact avec un mort, il était impur pendant 7 jours. Et qu'est-ce qui allait suivre la Pâque? La fête des pains sans levain qui durait 7 jours. C'est-à-dire que pour un des leaders du peuple, pour deux des leaders du peuple, soit il ne se présente pas à la fête, donc une grande source de ridicule aux yeux des autres, ou bien, s'ils sont vus, ils doivent crier « Impur, impur, impur !» Mais ils décident, encore une fois, parce que la croix les a transformés, de passer à travers cette épreuve, si on veut, décident que ça vaut la peine pour celui qui est mort devant leurs yeux. Je pense que ça doit nous faire réfléchir. Prendre la croix, suivre Christ, ça demande une allégeance qui est totale. Ça demande de chercher l'approbation de Dieu et non pas des hommes. Ça demande même des fois de se dépouiller et d'être prêt à lui donner tout ce qu'on a pour sa gloire, pour qu'il l'utilise. Puis on le voit dans la suite, justement. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié. Dans le jardin, un tombeau neuf. On lit dans un autre évangile que ce tombeau-là, c'était le sépulcre même de Joseph. C'est dans Matthieu 27 que c'est écrit. Joseph d'Arimathée s'était fait tailler dans le roc ce sépulcre-là et le donne à Jésus. ils le mettent dans le tombeau. Et à cause de la préparation des Juifs, c'est-à-dire en préparation pour le sabbat, ils se dépêchent dans toute cette entreprise en respect pour la loi. Mais encore là, même dans son ensevelissement, même alors que Jésus est mort, il y a une prophétie qui s'accomplit ici. Une autre qu'on a lue ce matin dans Ésaïe 53. Au verset 9 de ce chapitre-là, on peut lire, « On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. » Jésus qui est enseveli pas loin du lieu de la crucifixion, où les pires criminels sont exposés, tués à la vue de tous. Mis même dans le sépulcre de l'homme riche, Joseph d'Arimathée. Quel grand Dieu, hein? Vivant, il accomplit les prophéties. Mort, les prophéties s'accomplissent. Il n'y a rien qui l'arrête. Sa souveraineté dépasse tout entendement. Et dimanche, on va voir à quel point même sa souveraineté dépasse même la puissance de la mort. Mais ce soir, alors que on a particulièrement jeté un regard sur sa crucifixion, c'est bon de se rappeler que même si on a la joie de savoir qu'il est ressuscité, on a la tristesse de voir ce à travers quoi il a passé pour nous. Puis c'est frappant de penser que toute cette souffrance-là était prévue d'avance. C'était pas rien qui l'a surpris, c'était pas un mal nécessaire, mais c'était le plan souverain de Dieu, le plan nécessaire pour des hommes et des femmes aussi pécheurs et perdus qu'on est. Je pense que ce passage-là, c'est notre réponse à ce passage-là devrait ressembler à celle de Joseph d'Arimathée, à celle de Nicodème. Je pense que le scandale, la beauté aussi de cette crucifixion, cette beauté-là pour nous du sang qui a coulé, devrait produire en nous plus que juste un remue intellectuel. C'est un appel à l'action, puis on le voit directement par l'attitude de deux hommes qui étaient là lorsque ça s'est passé. Donc, je nous encourage à vraiment réfléchir aux implications de la crucifixion. Jésus lui-même, on l'a lu plus tôt, ça avait été affiché à l'écran dans Philippiens 2, que Jésus n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Il est venu ici puis a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Si Jésus a agi de telle sorte et qu'on est appelé à marcher à sa suite, qu'est-ce que ça implique pour nous de porter notre croix? Qu'est-ce que ça implique pour nous de suivre Christ? Joseph d'Arimathée, Nicodème ont rejeté l'idée de vivre une vie d'approbation des autres, une vie où ils étaient bien, une vie pour eux-mêmes. Mais ils se sont soumis à Christ. Je nous encourage à réfléchir à notre propre vie, à méditer sur la grandeur du sacrifice de Christ, puis à marcher à sa suite, parce qu'il en est digne, parce qu'il est souverain, en contrôle de toutes choses. Puis le Dieu souverain qui est mort sur la croix nous a dit aussi qu'il allait nous garder, qu'il allait nous préparer une place. Et donc, si on marche à sa suite, on ne marche pas en étant sans espérance. On marche dans l'espérance de le voir dans toute sa gloire un jour. Amen.